Vous écoutez, on lit pour vous.
Lâcher prise. Un texte de François-William Croteau, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir. Lorsqu'un événement échappe à notre compréhension, notre première réaction est souvent de chercher un coupable. Il doit forcément exister quelque part une explication rationnelle justifiant l'inexplicable, qu'il soit le fait d'une personne, d'un groupe ou d'un système. J'insiste sur le terme « rationnel », car c'est bien un besoin de logique qui nous pousse à vouloir comprendre ce qui nous trouble. Nous tentons alors de rationaliser l'irrationnel à travers le prisme de nos connaissances et de nos perceptions du monde. Au gré des époques, l'humanité n'a jamais arrêté de chercher des explications aux événements qui bouleversaient son quotidien. Les éclairs ont longtemps été l'œuvre de Zeus. Les ouragans, l'expression d'une manifestation de la colère divine punissant les pécheurs. Puis, la science a pris le relais, nous offrant des réponses de plus en plus rationnelles, apaisant du même élan nos craintes, face à des forces que nous ne pouvions contrôler. Malgré cela, certains imaginent aujourd'hui que le Parti démocrate américain peut manipuler la puissance et la trajectoire des ouragans à des fins politiques. Au fond, tout tourne autour de notre besoin intrinsèque de comprendre ce qui nous entoure. Cette quête de sens nous pousse à vouloir contrôler notre environnement pour mieux anticiper ce que demain nous réserve. Lutter contre l'imprévisible est sans doute l'un des traits les plus universels de la nature humaine. À la suite de l'annonce de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a expliqué ne pas vouloir briguer un troisième mandat faute de pouvoir y mettre le même niveau d'énergie, je me suis fait une réflexion. Celle-ci n'est pas tant à propos de la mairesse qu'à propos de notre société en général. Plus nous cherchons à maîtriser l'imprévisible, plus notre stress et notre anxiété augmentent. Quand je suis devenu maire d'arrondissement, on m'a rapidement expliqué qu'une annonce politique devait être méticuleusement préparée pour tenter de contrôler le message. J'ai aussi très vite compris que, même avec l'aide des meilleurs experts en communication, il est impossible de totalement contrôler ce message. Nous sommes actuellement aux prises avec des crises de plus en plus difficiles à maîtriser. Les bouleversements climatiques, la crise du logement, la montée de l'itinérance, la violence par arme à feu, la crise des migrants et bien d'autres. Face à cette complexité, nous cherchons souvent des responsables, des coupables, aisément identifiables. Comme si une seule et même cause pouvait expliquer tous ces phénomènes aux ramifications multiples. Il est inévitable que notre besoin d'explication simplifie ce qui, en réalité, est extrêmement complexe. Être à la tête d'une ville ou d'un arrondissement nous expose constamment à ce genre de situation. Lorsqu'un événement perturbe la vie collective, c'est presque toujours le maire ou la mairesse qui est montré du doigt. Cette réaction est souvent injuste, car une seule personne ne peut pas être la source de tous les problèmes d'une ville ou d'un arrondissement. Elle est néanmoins compréhensible lorsque les citoyens n'ont pas accès à l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre la situation. C'est dans ces moments-là que nous devons nous interroger sur notre capacité à lâcher prise face à ce que nous ne contrôlons pas. Cela vaut autant pour les citoyens que pour les décideurs. La pression de toujours avoir une réponse à offrir est écrasante. Trop souvent, un maire ou une mairesse cherchera à prendre tout sur ses épaules afin de tenter de maîtriser ce qui lui échappe. Ce besoin de contrôle pu rendre le quotidien insoutenable. C'est probablement la plus grande leçon que j'ai apprise depuis mon départ de la politique. Être en position de décideur politique est un immense privilège. Les citoyens nous accordent leur confiance pour agir dans l'intérêt collectif. Cette simple affirmation nous fait mesurer tout le poids de la responsabilité qui repose sur les épaules de celles et ceux qui exercent ce rôle. C'est probablement cette même pression qui pousse tant de décideurs à hésiter autant parfois à prendre certaines décisions. Peu importe le choix retenu, ils savent qu'il y aura toujours des critiques, des insultes et parfois même des attaques personnelles. Depuis la pandémie, notre indulgence semble avoir rétréci comme peau de chagrin. Les attentes envers les politiciens se sont accrues. On exige d'eux des réponses immédiates et claires, même face à l'imprévisible. J'ai une mauvaise nouvelle. L'imprévisible est appelé à devenir la norme avec l'intensification des dérèglements climatiques. Si un élu qui aspire au pouvoir vous promet des réponses simples et rassurantes, soyez certain qu'une fois au pouvoir, il constatera que la réalité est bien plus complexe qu'il ne l'imaginait et qu'il ne peut pas tout maîtriser. La véritable question que nous devons nous poser, comme décideurs, mais aussi comme citoyens, est celle de notre capacité à lâcher prise, à accepter que tout ne puisse pas être contrôlé dans le moindre détail, dans l'immédiat. Si nous souhaitons que nos élus soient en mesure de nous guider collectivement face aux imprévus qui perturbent nos vies, il nous faut aussi accepter individuellement que, dans les faits, la responsabilité ne reposera jamais sur les épaules d'une seule personne. Chères politiciennes et chers politiciens, un conseil. Cessez de vouloir tout contrôler. Je vous assure que vos brûlements d'estomac disparaîtront ou au moins s'apaiseront un peu. C'était « Lâcher prise », un texte de François-William Croteau, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir.
Les bienfaits de la spontanéité, un texte d'Olivia Lévy, paru le 9 mars 2024 dans La Presse. Dans un monde fait d'incertitudes où tout le monde court après le temps, le bonheur serait-il dans l'imprévu et la spontanéité, dans les soirées improvisées? Oui, il est essentiel de ne pas toujours tout planifier dans les moindres détails afin d'alléger son quotidien et de faire place à l'émerveillement, selon les experts à qui nous avons parlé. Tout le monde n'a pas la même tolérance face à l'imprévu, lance d'emblée la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Quand on planifie tout, on s'assure qu'il n'y a pas de manque, que tout est prévu d'avance. C'est sécurisant. C'est une façon de gérer une angoisse face à l'incertitude, car je sais ce qui s'en vient, je l'ai prévu et il n'y aura pas d'ennui ou de sentiment de solitude. Selon la professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, une grande partie de la population est portée à tout planifier. Peut-être est-ce parce que de nombreuses familles ont un rythme de vie effréné et qu'elles sont obligées de tout prévoir dans les moindres détails? Les enfants font des sports et de multiples activités. Il faut planifier parce que sinon, on n'y arrive pas, dit Geneviève Beaulieu-Pelletier. C'est le cas de Sonia Hernandez, consultante et associée, mère de deux enfants. « Mon agenda est bien défini et tout est planifié. Après le travail, on se sépare les tâches, mon mari et moi. On sait qui emmène qui au soccer et au hockey, qui sort le chien, qui s'occupe du souper. Puis, le soir, il est prévu que je travaille à nouveau et que je me couche. Je n'ai pas le choix de tout prévoir, je n'ai pas le temps d'improviser une soirée. La spontanéité ? Oui, il en faut plus dans ma vie, mais mon horaire est trop serré et je pourrais le regretter le lendemain, lance-t-elle. Et il faut que j'ajoute mon kickboxing dans tout ça, dit-elle. Ode à l'imprévu. Et pourtant, il est important de laisser de la place au loisir, à la créativité, même au quotidien. Il faut planifier des moments de non-planification. Une soirée improvisée, ça fait du bien. C'est nourrissant, c'est précieux et c'est d'une grande simplicité parce qu'on n'a rien prévu, justement. On ne va pas stresser à préparer un souper élaboré, c'est l'avantage. On va proposer à la dernière minute, « Viens à la maison, on va se faire un petit truc simple. On va prendre le temps de jaser, juste se voir sans les contraintes de la planification. » Car vous savez, à force de tout prévoir, on se met une pression. On veut que la soirée soit parfaite et ça rend les choses compliquées, constate la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Tania Tsagova, ingénieure, mère de deux enfants, se considère comme une personne spontanée. « Je suis organisée dans mon travail, mais la fin de semaine, je ne vais rien mettre à l'horaire ni rien prévoir. Je préfère improviser un souper avec des amis et j'adore ça », dit-elle. Sylvaine Messica a fait de l'imprévu son mode de vie. Conférencière, elle est l'autrice de « La puissance de la spontanéité ». Elle estime qu'on vit dans une société trop rigide et formatée. L'incertitude fait partie de la vie beaucoup plus qu'autrefois. Alors, il faut savoir la gérer. Qui se projette sur 10 ou 20 ans? Avant, on gardait le même emploi pendant toute sa carrière, alors qu'aujourd'hui, on change de travail, de vie, de pays, de carrière, rappelle Sylvaine Messica. Selon elle, la spontanéité est pleine de bienfaits et permet de vivre des moments d'émerveillement. Le bonheur de l'imprévu est immense, car rencontrer des gens ainsi est une expérience très forte. Et très souvent, ce sont des relations d'amitié qui vont durer. Il ne faut pas oublier les petites choses de la vie qui nous font du bien. Faire une surprise à quelqu'un, c'est extraordinaire, c'est magique, s'exclame Sylvaine Messica. Geneviève Beaulieu-Pelletier partage cet avis. Il y a un lien qui va se créer quand on est spontané. Car on va exprimer ce qu'on ressent et ça permet de connecter avec l'autre de manière plus authentique, ce qui sera bénéfique, dit-elle. Pour ceux et celles qui ont toujours des horaires ultra chargés, elle conseille à petite dose de laisser quelques espaces aux imprévus et de se laisser porter. Quand on s'occupe l'esprit en tout temps, on est constamment dans l'action. Il n'y a pas de place pour la spontanéité. Ça peut être inconfortable pour beaucoup de gens, mais il suffit de planifier un petit peu moins sa semaine et apprivoiser ainsi une certaine dose d'incertitude. Après, on analyse le résultat. Qu'est-ce que ça m'a permis de découvrir? Est-ce que j'en tire du positif, des rencontres, de beaux moments? On va alors réaliser qu'il y a des avantages et des bienfaits, conclut-elle. C'était « Les bienfaits de la spontanéité », un texte d'Olivia Lévy paru le 9 mars 2024 dans la presse.
C'est PFAS qui s'insinue partout. Un texte d'Ariane Kroll paru le 3 novembre 2024 dans la presse. Qualifiés de polluants éternels, les PFAS, sigle anglais désignant les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, sont devenus omniprésents dans nos milieux et dans nos vies. C'est vraiment l'enjeu de l'heure en environnement, souligne Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l'Université de Montréal, qui mène de nombreuses recherches sur les PFAS. Il nous propose 4 sources pour comprendre ces substances intrusives. Un antiadhésif qui s'incruste. Les PFAS sont largement utilisés comme antiadhésifs, notamment dans les poêles enduites de Teflon, et comme protection contre les taches sur les textiles, meubles, tapis, etc. Il faut aussi faire attention aux contenants à usage unique, note le professeur Sauvé. Le carton qui résiste au café chaud est traité avec quelque chose, et il y a de bonnes chances que ce soit des PFAS, illustre-t-il. On élimine les plastiques à usage unique, et on transfère vers des plats compostables, mais le carton qui résiste à l'eau et à la chaleur est probablement traité au PFAS. Je ne suis pas sûre qu'on a amélioré notre cas. Plusieurs articles de vulgarisation scientifique rédigés par des universitaires, dont M. Sauvé, sont disponibles en français sur le site La Conversation. On y trouve aussi bien des informations de base sur les PFAS que des tests de système de filtration d'eau à domicile ou des réflexions sur la difficulté de surveiller leur présence dans l'eau potable. Une cause célèbre. L'avocat Rob Billott était associé dans une firme spécialisée dans la défense de gros clients commerciaux lorsqu'un fermier de la Virginie-Occidentale l'a appelé à l'aide à la fin des années 1990. Ses vaches tombaient comme des mouches et l'éleveur soupçonnait l'usine Dupont installée dans son village. Contre toute attente, Billott a accepté ce mandat à contre-emploi et a commencé à enquêter sur les PFOA, acides perfluoro-octanoïques ou APFO en français, utilisés par Dupont, substances dont il n'avait jamais entendu parler. Après avoir obtenu et épluché des dizaines de caisses de documents internes de Dupont, l'avocat a négocié un règlement à l'amiable pour son client. Non content de cette première victoire, il a fait part de ses découvertes aux autorités réglementaires qui ont infligé une amende de 16,5 millions de dollars aux manufacturiers. Billott a ensuite lancé une action collective du jamais vu dans son cabinet d'avocat centenaire. Cette histoire digne d'un roman a fait l'objet d'un film hollywoodien, Dark Waters, en 2019. Je l'ai regardé quelques fois et je demande aux étudiants de le visionner, dit M. Sauvé. C'est, à plusieurs égards, une reproduction des enjeux du tabac, donc avec l'industrie qui avait des informations incriminant ses produits. Des images sur des mots. C'est l'entreprise américaine 3M qui, après la Seconde Guerre mondiale, a découvert les propriétés imperméabilisantes des PFAS qui les rendent aussi à l'épreuve des taches. Depuis, ils s'accumulent dans l'environnement, mais aussi dans le corps humain. Selon les plus récentes estimations de l'Agence gouvernementale américaine chargée de la protection de l'environnement, EPA, plus de 14 000 structures chimiques sont considérées comme des PFAS. Leurs résidus se retrouvent dans l'eau potable où ils augmentent les risques de plusieurs problèmes de santé. Des cas de cancer, dont certains mortels, ont été documentés en périphérie des usines qui produisent ou utilisent des PFAS. Mais ces substances ont aussi été détectées dans le sang des enfants des îles Féroé, un archipel isolé dans l'Atlantique Nord. Des chercheurs les soupçonnent d'affaiblir le système immunitaire de ces jeunes. Le documentaire « The Poison in Us All » de Bloomberg Investigates illustre bien la complexité des voies d'exposition, indique M. Sauvé. Il élargit au-delà de l'eau potable et fait comprendre qu'il y en a dans la nourriture et dans d'autres choses. On est en Europe et ailleurs, pas juste aux États-Unis. Au Québec aussi. Surnommés « fumier humain », les boues d'épuration issues du traitement des eaux usées municipales sont utilisées comme source d'engrais abordables par des producteurs agricoles depuis des décennies. Mais le Maine en interdit l'épandage en août 2022, après que des fermiers ont vu leurs terres contaminées par de fortes concentrations de PFAS. Faute de débouchés locaux, du fumier humain de cet État américain a pris la route du Québec, a révélé un reportage de Radio-Canada à la fin de 2022. au printemps suivant, Québec a annoncé un moratoire sur l'épandage des boues américaines, le temps d'en encadrer les teneurs en PFAS. Un projet de règlement a fait l'objet de consultations à la fin de l'été. M. Sauvé a demandé au gouvernement de cibler au moins une vingtaine de PFAS, et non pas seulement 11, comme le proposait le projet de règlement, et de surveiller une famille de PFAS de près. Cela dit, je ne veux pas trop les critiquer. Ils vont être parmi les premiers au monde à réglementer les boues d'épuration, note le spécialiste. Ce genre de dossier avance habituellement à 5 ou 10 km/h au gouvernement. Là, je pense qu'il roule à 50 km/h. Il ne roule pas vite, mais par rapport aux vitesses normales du gouvernement, ils font de grands efforts. Les PFAS dans le fumier humain et l'eau du Québec ont fait l'objet de reportages, des émissions Enquête et La Semaine verte. C'était ces PFAS qui s'insinuent partout. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
Fascinant retour, un texte d'Olivia Lévy, paru le 27 octobre 2024 dans La Presse. La prestation de Céline Dion aux Jeux olympiques de Paris en août 2024 nous a tous émus. Après 4 ans d'absence, elle effectuait un retour spectaculaire en chantant du haut de la Tour Eiffel devant le monde entier. Pourquoi sommes-nous fascinés par les retours de vedettes et de sportifs? Se relever, malgré l'adversité, suscite très souvent l'admiration. Après un retrait en raison d'une maladie, d'un échec, d'une controverse ou d'un épuisement professionnel, certains font un retour en force. Parmi les retours célèbres, il y a eu ceux de la gymnaste Simone Biles l'an dernier, de Tiger Woods en 2019, de Michael Jordan en 1995. Que dire de celui très remarqué de John Travolta avec le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994? Sans oublier Pamela Anderson, de retour sur les tapis rouges, prochainement dans un nouveau film et qui vient de sortir un livre? Selon la sociologue Stéphanie Gaudet, dans notre société de performance, il est assez rare de montrer nos vulnérabilités. Elle évoque les réseaux sociaux et les médias où on ne montre que nos exploits et notre bonheur, jamais le côté plus sombre de notre vie. Il est tabou de montrer nos faiblesses, dit-elle, comme si on était toujours en forme physique et psychologique. Ce comeback spectaculaire de Céline Dion, même s'il a été calculé et orchestré, montre que, malgré la souffrance, elle s'est mise en danger et a effectué une véritable renaissance, une performance de la résilience. Le retour de Céline Dion est un message d'espoir dont la société a tant besoin, croit la professeure titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. C'est pour cette raison que ça nous touche autant. Quand on y croit, qu'on travaille fort, qu'on ne lâche pas, on peut tous y arriver, souligne Mme Gaudet. Il existe toutefois de grandes inégalités derrière ça. Mais en garde la sociologue, qui estime que ce n'est pas donné à tout le monde de faire un retour de la sorte, car nous ne sommes pas tous égaux face à l'adversité. Elle est très entourée, Céline Dion. Elle a toute une équipe derrière elle, médecins, spécialistes, physiothérapeutes. Tout le monde n'a pas accès à ses soins, ni à du soutien ou à des ressources sociales, des parents, une famille, des amis, dit-elle. Introspection nécessaire. La psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier parle d'un moment d'arrêt, d'un repli sur soi, d'une introspection qui est parfois nécessaire pour comprendre ce qui se passe en nous, comprendre ses erreurs. C'est un processus psychologique. On vit tous des moments difficiles, que ce soit un échec ou une maladie. On y fait face de façon différente, mais on a tous besoin d'effectuer un travail sur soi pour reprendre le contrôle de sa vie, affirme-t-elle. Le jour où une personne partie en congé maladie plusieurs mois pour épuisement professionnel revient au bureau, c'est très beau. C'est un retour plein de vulnérabilité et de force en même temps, estime la professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Selon la comédienne et entrepreneure Caroline Néron, les retours médiatisés encouragent les gens dans leur propre vie. Tout le monde passe à travers des épreuves, dit-elle, et on aime ces histoires parce qu'elles nous rappellent que tout est possible et qu'on peut se relever. Lorsqu'elle a fait faillite en 2019 avec son entreprise de bijoux, elle avoue qu'elle n'avait pas le choix de rebondir. On apprend avec nos expériences, mais quand on est confronté à une difficulté, on n'a pas le choix. Ça prend de la volonté, de la discipline, de l'aide. J'ai consulté une psychologue. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais ça a été vraiment bénéfique pendant cette période. Même s'il est difficile de montrer sa vulnérabilité, il est important de le faire, selon Caroline Néron. Il faut aussi montrer qu'on peut se reconstruire, qu'on est capable de traverser cette épreuve et de revenir. Ces retours spectaculaires peuvent aussi décourager les gens plus fragiles. Ceux qui n'arrivent pas à rebondir, pour toutes sortes de raisons, pense toutefois la sociologue Stéphanie Gaudet. Elle souligne que notre société aime les extrêmes. Elle cite l'exemple des histoires incroyables d'athlètes paralympiques qui, à la suite d'une amputation, se sont engagés dans le sport et ont participé aux Jeux paralympiques. On valorise, dans le discours social, les efforts surhumains. Et on a besoin de ça. Mais en même temps, il est faux de dire que tout le monde a accès à cette rédemption. Pour Caroline Néron, rien ne vient sans travail. Celle qui a fait un retour au jeu, à l'écran, dans le film « La déesse des mouches à feu » en 2020, est très disciplinée. « Je fais un retour dans tout », les arts et les affaires, mais c'est le fruit d'un grand travail. Je prends des risques, je me remets en question et je travaille très, très fort. C'était « Fascinant retour », un texte d'Olivia Lévy paru le 27 octobre 2024 dans la presse.